Chers frères et sœurs, dans les lectures d'aujourd'hui, on nous parle de la royauté du Christ. Et dans les premières lectures, nous pouvons tirer un peu l'image que le peuple d'Israël s'est fait de ses rois, qu'ils attendaient, qu'ils vont attendre tout au long de leur histoire. Dans un deuxième moment, je voudrais qu'on se concentre un peu sur les derniers moments de la vie de Jésus, où les gens s'adressent à lui de différentes manières, et notamment avec ce qui est passé à l'histoire comme les bons larrons. Quand le roi David est encore roi simplement du sud du peuple d'Israël, qui était divisé, les gens du nord viennent les trouver pour lui demander de réunir le peuple, de devenir les rois de tout le peuple. Et ils vont invoquer, pour le convaincre, une raison très valable. « Toi, tu es chair de notre chair, os de nos os. » Cette expression nous rappelle la joie d'Adam quand il a vu Ève. Voilà, qu'il ne trouvait pas des semblables, même s'il avait tous les pouvoirs sur la terre. Il était dans une solitude très triste. Et quand il voit apparaître Ève, il dit, voilà, chair de ma chair, os de mes os. Et il sent que la femme pouvait le comprendre, pouvait être aussi un vis-à-vis pour lui. Et les Juifs, ils vont chercher David pour qu'il devienne un roi avec les mêmes sentiments. Nous venons te chercher parce que tu es notre frère. Le roi devait être le centre qui unifie, et le signe la couronne, il unifie un peuple qu'autrement serait dispersé comme des brebis sans berger. C'est pour cela que le roi d'Israël est toujours connu comme un roi berger. Un berger qui va protéger, qui va conduire vers les pâturages, qui va guider le peuple. Mais ils le disent aussi, fais alliance avec nous, comme un contrat par lequel on est unis. L'essor du roi et l'essor du peuple doit s'identifier. Le peuple, le roi doit veiller pour que l'essor de son peuple soit assuré. Une des fonctions du roi sera évidemment d'administrer la justice, de veiller pour que les pauvres ne restent pas pauvres, que les orphelins et les démunis obtiennent justice, qu'on fasse grâce aux opprimés. C'est le roi qui avait évidemment, tout au long de l'histoire d'Israël, on décrit cette royauté comme un pouvoir, et jusqu'au livre de l'Apocalypse, Jésus est présenté dans l'Apocalypse comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voilà, le vainqueur. Il vient sur un cheval blanc et il a vaincu tous les ennemis et il entre dans le royaume de son père. Mais ce roi que les Juifs attendaient, il va les décevoir. On le voit dans l'évangile que nous venons d'entendre. Et ils vont lui dire, montre que tu es le roi. Donne-nous la preuve. Si tu es le Messie, ils vont se moquer de lui. Si tu es le Messie, disent les chefs des Juifs, sauve-toi toi-même. Où est ton pouvoir de roi? Ce n'est pas cela que nous attendons. Et ils n'étaient pas simplement des moqueurs de profession, ils étaient ils nous ressemblaient beaucoup. Ou plutôt, nous les ressemblons beaucoup. Combien de fois nous nous adressons au bon Dieu pour lui dire « Montre, montre ton pouvoir, manifeste. Et où se trouve ta puissance? Donne-nous un signe pour que nous puissions croire. » Les soldats qui sont habitués à la force armée, ils vont se moquer dans les mêmes termes du Seigneur. Et puis il y a les pauvres qui souffrent, qui est crucifié à ses côtés, et qui dit « Sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. » Combien de fois nous voudrions épargner à Jésus la souffrance et nous épargner la nôtre? Et nous imaginons un Christ qui devrait répondre à nos attentes de la manière dont nous l'attendons. Et c'est déroutant de trouver un roi qui, les premières, se laisse crucifier et qui assume toutes nos souffrances. C'est notre frère, c'est cher de notre chair, haut de nos os, qui ne va pas déployer sa puissance pour nous éviter la souffrance, mais qui va donner un sens, qui va nous guider, qui va accomplir la justice, qui va être le berger autrement. Si tu es le Messie, lui disent ceux qui sont autour de lui. Il demande une preuve, et ça c'est un peu diabolique. Si tu es le Fils de Dieu, avait dit le diable lors des tentations dans les déserts. Montre-toi, manifeste-toi, déploie ton pouvoir, ta puissance, fais des éclats, abîme tes ennemis. Combien de fois c'est le cri qui jaillit de nos cœurs. Ensuite, nous avons l'Écriture qui nous dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne vient pas de manière visible. » Et alors le royaume de Dieu, c'est autre chose qu'une manifestation de puissance, de pouvoir, et même des pouvoirs d'achat, hein, parce que parfois nous voudrions que le Messie, que le Sauveur nous multiplie notre pouvoir d'achat. Eh bien oui, et c'est qui va saisir, personne ne va saisir la royauté véritable du Christ. Et oui, il y a le bon larron qui fait lui aussi une demande au Seigneur, mais qui ne lui demande pas de démontrer, de me montrer que tu es le roi. Il lui dit simplement « Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. » Jésus, déjà, avec cette confiance, cette simplicité, une prière qui nous apprend à prier avec « Oui, je sais que tu es le berger, je sais que tu es chair de ma chair, ô de mes os, je sais que tu comprends ma souffrance. Tu es mon frère, Jésus. » Mais la prière, c'est significatif. Souviens-toi, souviens-toi de moi. Il ne demande pas qu'il fasse quoi que ce soit, qu'il se souvienne. Ce souvenir, en français, vient du latin. Et souvenir, venir à mon aide, venir m'appuyer, me secourir, venir donner une consistance à ce que je suis. Parce que ma vie, autrement, tombe dans l'oubli. Vous voyez, c'est la prière de quelqu'un qui a tout essayé, et c'est la prière de quelqu'un qui a tout raté dans sa vie. La vie de cet homme, qui on imagine plutôt jeune, c'est un échec. Il a tout raté. Il est devenu malfaiteur, peut-être à cause des circonstances, et surtout, il n'a plus d'avenir, il n'y a plus rien à faire. Alors, il demande du fond de son cœur, « Seigneur, souviens-toi, viens m'appuyer, viens me soutenir, que ma vie ne glisse pas dans l'oubli. » Que ma vie ne soit pas intranscendante, inconsistante. L'oubli, c'est le vide, la vacuité. C'est de ne plus avoir une histoire, que mon histoire et mon existence n'a servi à rien. En espagnol, et c'est très beau de l'évoquer, ces souvenirs, on dit « recordar ». Recordar, ça veut dire « avoir dans le cœur ». On se souvient quand on a quelque chose à cœur, quand on a quelqu'un à cœur. Et lui, il demande « Seigneur Jésus, Jésus, garde-moi dans ton cœur ». Et si c'était ça notre prière, garde-nous dans ton cœur, garde-moi dans ton cœur. C'est toi qui assures mon existence, c'est toi qui assures ma destinée, c'est toi qui me conduis. Je me confie à toi, je me remets dans ton cœur, dans les sentiments de ton cœur, avec confiance et à ton pouvoir. Et évidemment, quand on fait cette prière, on essaye aussi de s'accorder, c'est-à-dire d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes regards sur la vie, sur les choses à faire, sur l'essence de notre existence. Jésus, souviens-toi, recordar et accorder notre cœur avec le Seigneur. Et cette réponse est magnifique. Aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Aujourd'hui, sans tarder, c'est au présent que Jésus donne la réponse. Aujourd'hui, à chacun de nous, avec les misères, les échecs, les interrogations que nous portons, chacun de nous, eh bien, aujourd'hui, il veut donner une réponse. Il la donne. Et la réponse, c'est quoi? C'est « Avec moi, tu seras au paradis ». Mais ce n'est pas simplement « Je te promets que tous les deux, après tout ce qu'on est en train de souffrir, on va rentrer au royaume de Dieu ». Ça, c'est certain. Mais il y a une autre interprétation. « Avec moi, tu es au paradis ». Avec moi, c'est comme quand deux personnes qui sont amoureuses, ils se disent « Avec toi, je suis dans les nuages ». Avec moi, aujourd'hui, tu es au paradis. Si nous vivions dans cette intimité de cœur à cœur avec Jésus, aujourd'hui, avec lui, nous serons dans son royaume, nous serons au paradis.